France Musique.
Bonsoir à tous, bonsoir Émilie.
Bonsoir Rodolphe.
Nous sommes ensemble jusqu'à 22h.
Et c'est la Saint-Valentin.
Ah.
Alors nous allons déclarer notre flamme à de nombreux compositeurs ce soir.
Ah, je croyais que c'était à moi.
Mais oui, mais vous, c'est tous les jours. Vous n'avez même pas besoin de 14 février. Hein.
Ni de dimanche.
Mais oui, Dieter Hamann, George Crumb ou Enno Popeux. Et nous ouvrons cette émission avec le pianiste Andreas Effliger. On le connaît accompagnateur de chanteurs comme Wolfgang Hofmeier ou Matthias Gurneu. On le connaît soliste grâce à une belle série de disques intitulés Perspectives. 7 volumes dans lesquels Beethoven répondait à Thomas Hadès, Brahms, Schubert, Alban Berg ou Luciano Berio. D'ailleurs, la pièce de Berio que vous venez d'entendre faisait partie du 6e volume de ces Perspectives. Et le voici aujourd'hui dans la musique concertante avec le concerto pour la main gauche de Ravel, le 3e de Bartok et le concerto de Dieter Hamann, un artiste suisse dont le pianiste est très proche. Il a fallu 3 années de travail au compositeur pour livrer sa partition. Quand Andreas m'a demandé de composer un concerto pour piano à son intention, dit-il, j'étais tout sauf enthousiaste car je savais que le travail en vue d'une telle œuvre prendrait des années. La raison, c'est ma façon de travailler, scrupuleuse, perfectionniste et en même temps risquée car elle repose principalement sur l'intuition artistique. Andreas Effliger confie quant à lui qu'il est immédiatement tombé sous le charme de ce concerto futuriste aux couleurs kaléidoscopiques. on le comprend parce que cette grande toccata, ça s'appelle comme ça, grande toccata, superpose les rythmes, les plans sonores, nous entraînant dans une vague orchestrale alternant accords brillants et consonants, clusters âpres et passages bruyants. Voici son premier mouvement.
Thank you.
Le concerto pour piano Grande Toccata de Dieter Hamann, joué par Andreas Effliger, qui en est le dédicataire, avec l'Orchestre Philharmonique d'Helsinki, dirigé par Susanna Malki. C'est notre disque de la semaine.
En piste contemporain, Émilie Munera et Rodolphe Bonneau-Boulmier, France Musique.
C'est le compositeur allemand le plus en vue, prix Siemens en 2004, comme Stockhausen, Messiaen, Ligeti, Courtag ou Berio avant lui. Enno Poppe est un personnage impressionnant et le disque est impressionnant d'ailleurs. Il nous permet de mesurer ici la grandeur de ce compositeur de 50 ans avec des œuvres ambitieuses pour ne pas dire imposantes. Le chœur et l'orchestre de la radio bavaroise sous la direction de deux chefs aguerris à ce répertoire, Pinscher et Melki, qui sont tous les deux passés par l'ensemble intercontemporain. Susanna Melki qui dirigeait votre concerto pour piano,
oui, à l'instant,
et qu'on va entendre dans un instant. Alors vous allez entendre une musique énergique qui avance toujours comme une course à l'absurde par moment. C'est la pièce qui s'appelle Fête, F-E-2-T, qui a été créée tout récemment par Susanna Melki. Ici, c'est l'enregistrement de la création. C'est une co-commande avec le Los Angeles sous la direction de Doudamel. C'est une pièce organique sur la nature qui apparaît par petites pousses, petites explosions. C'est une sorte, en fait, de sacre du printemps plus moléculaire, plus cellulaire, on pourrait dire. La musique d'Enno Poppe collecte le petit, le fragment, le minuscule, puis l'agence pour en faire quelque chose de grand et d'imposant. C'est un peu sa méthode de travail. C'est ce qu'on retrouve dans pratiquement toutes ses œuvres et c'est extrêmement efficace. Voici ce que ça donne, donc un large extrait de Fête, Enno Poppe, l'orchestre de la radio bavaroise sous la direction de Susanna Melki.
Thank you.
Fête, c'est l'orchestre de la radio bavaroise sous la direction de Susanna Melki qui nous propose cette grande partition d'Enno Poppe.
Grande partition pour orchestre et maintenant nous passons au duo violon-piano. L'Élégie, la première des cinq Nachtstücke de Hans Werner Henze par Ulf Schneider et Jan-Philipp Schulze. C'est un disque dont on a déjà parlé dans notre rampiste cette semaine. Il s'appelle Nuit sur Terre et on y trouve des pièces qui évoquent...
Le jour.
J'étais sûre que vous me diriez ça. Du côté de la nuit avec Elgar, Sibelius, Tchaïkovski, Korngold et un compositeur de notre temps qui vit de l'autre côté de l'Atlantique, l'Américain George Crumb, 91 ans aujourd'hui. Ses quatre nocturnes datent de 1964, donc il n'avait pas encore le succès qu'il aura quelques années plus tard. Il était professeur de piano à l'Université du Colorado. À cette époque, il s'intéressait aux sons que pouvaient produire les différents instruments, notamment le piano. Et c'est ce qu'on remarque dans ces petites pièces où les techniques du jeu sont très variées. J'ai tenté de modifier la manière dont on traite traditionnellement le duo violon-piano en exploitant les diverses ressources timbrales des instruments, c'est ce que nous dit le compositeur. Effectivement, le violoniste utilise tous les effets de son instrument, des harmoniques au glissandi. Le pianiste produit lui aussi des harmoniques en touchant, en pinçant les cordes du piano. Ça donne une pièce à l'atmosphère très singulière, souvent d'une extrême délicatesse, une vraie musique de nuit soutenue par un violon qui joue souvent dans l'extrême aigu. On va écouter deux de ces nocturnes. Deux des quatre nocturnes de George Crumb par Ulf Schneider et Jan-Philipp Schulze. C'est un disque qui s'appelle Night on Earth, la nuit sur Terre, avec quelques pièces composées aujourd'hui.
En piste contemporain, Émilie Munera et Rodolphe Bonneau-Boulmier, France Musique.
Et on va rester avec le piano. Vous connaissez peut-être le pianiste. Il a enregistré de beaux disques aux couleurs de l'Amérique du Sud. C'est Gabriel Urrel Reyes. Il est cubain. Il a enregistré les œuvres pour piano de Ginastera. Ce sont des disques qui sont vraiment passionnants. J'aime beaucoup ce pianiste. Et vous allez découvrir ici, ce soir, le compositeur. Compositeur hétérogène à l'image de son parcours, à l'image des pays qu'il a traversés, des personnes qu'il a rencontrées, de Barenboim à Herbie Hancock. En 2018, il fonde son propre label, Capita Enavia, qui est une société de production artistique qui permet de développer des projets transdisciplinaires qu'il inaugure avec des expositions, des concerts, avec le partenariat de fondations. C'est une œuvre musicale qui brasse large l'électronique, l'électroacoustique, le concerto, la musique de chambre, le piano solo. C'est une œuvre éruptive, joyeuse, rythmée, c'est luxuriant. C'est à l'image de la pochette, une sorte de kaléidoscope musical et coloré. C'est l'univers de Gabriel Urrel Reyes. Flos Pacifer, c'est la musique de Gabriel Ourel Reyes. C'est que de l'électronique, il y a des pièces mixtes aussi, piano et électronique, de ce très beau double disque pour découvrir donc l'univers de cet artiste.
C'est l'heure de retrouver le journal de la création de Laurent Villarem.
Bonsoir Laurent Villarem.
Bonsoir.
Bonsoir Émilie, bonsoir Rodolphe.
Au programme ce soir.
Alors ce soir, je vous fais un menu maxi best-of, quoique c'est pas très glamour, ou plutôt un menu gourmet.
La crème
de la crème des scènes allemandes, françaises et américaines. Le festival Éclat de Stuttgart s'est déroulé la semaine dernière avec une splendide programmation. Et parmi les créations, il y avait une magnifique première de Franck Bedrosian. Un extrait de Mémoire d'un chevalier errant de Franck Bedrosian par l'orchestre de la SVR et le pianiste Christophe Grundt. Je sais pas vous, mais j'ai toujours considéré Bedrosian comme l'un de nos plus grands compositeurs. Et je trouve qu'il évolue magnifiquement.
Oui, c'est vrai qu'il y a une véritable évolution dans sa musique.
Il y a toujours ce geste saturé dans sa musique, mais il y a un raffinement et une dimension théâtrale, puisqu'ici le pianiste est Don Quichotte et il est aidé d'un assistant Sancho Panza dans les cordes. C'est génial comme idée.
Ah, c'est pas mal.
Ouais. Idée.
Il est sur son cheval.
Avec ça,
face à des moulins.
Avec Rocinante.
Voilà.
C'est une très 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 belle œuvre. Vous pouvez découvrir le reste de la programmation du festival Éclat en streaming avec des compositeurs qu'on connaît plutôt mal en France, comme Matthias Vestergaard Hansen ou Iris Ter Sriphorst. Vous connaissez?
Pas du tout.
Et ben vous pouvez découvrir. Par contre, le site est en allemand. Personnellement, je me perds un peu. Ah. Mais vous pouvez partir en exploration sur le site du festival Éclat. On reste en Allemagne, cette fois à Cologne, avec le festival Artbrücken et le streaming d'un concert de l'ensemble Musikfabrik, dirigé par Enno Pope, décidément,
mais
partout.
Oui.
Est-ce que vous connaissez Chaya Sersnovin? C'est une compositrice très influente, c'est un peu la papesse de la musique d'aujourd'hui, car elle est professeure à l'université de Harvard à Boston. Vous pouvez découvrir sa nouvelle œuvre qui dure une heure, donc là vous avez un bon aperçu, ce Fabrication of Light, en streaming. On a mis le lien du concert sur la page de l'émission. On reste à l'étranger, à Monaco. Est-ce que c'est l'étranger, Monaco, Émilie Rodolphe?
Ah oui. Wow. Quand j'y vais, j'ai l'impression d'être à l'étranger.
Le Printemps des Arts change d'ailleurs de directeur, puisque Bruno Mantovani sera le successeur de Marc Monet. Mais le Printemps des Arts de Monaco se tient bien du 11 mars au 7 avril, normalement devant un public.
On espère.
En revanche, on a appris que la 11e édition des Détours de Babel de Grenoble est reportée à la fin de l'été. De nombreux rendez-vous numériques seront néanmoins mis en ligne entre le 17 mars et le 10 avril. Émilie Rodolphe, je sens que vous avez besoin de prendre l'air, d'espace.
À peine.
Si peu.
Il faut vous dépêcher car il vous reste 2 jours pour aller voir l'exposition Le Bleu du Ciel du photographe Édouard Toffenbach sur la musique de Régis Campo. On voit des vols, des hirondelles en plein air, c'est très beau, ça fait rêver.
Denisia Kerchevant en a parlé, c'est très beau.
Et c'est jusqu'au 16 février.
Il y a un livre, je crois.
Oui, qui est très beau. Ouais. C'est jusqu'au 16 février, donc jusqu'à mardi, et c'est à la galerie Thierry Biguignon, 9 rue Charlot, dans le 3e arrondissement de Paris. Est-ce que ça vous dit que je parle d'Olga Neuwirth? J'ai l'impression qu'on parle d'Olga Neuwirth toutes les semaines.
C'est un peu ça.
Au moins, on connaît.
Mais on est toujours contents.
La compositrice autrichienne vient de recevoir le prix de la Fondation Wolf en Israël, doté de 100 000 euros. Auparavant, Boulez, Rostropovitch et Messiaen l'ont reçu. Et vous savez avec qui Neuwirth partage le prix?
Non,
dites-nous.
Avec Stevie Wonder.
Après, ce qui est intéressant, alors je ne sais pas si c'est le cas, mais va-t-elle garder l'argent ou va-t-elle le redistribuer? C'est souvent la question de ses prix. Boulez, je crois, le donna à une fondation ou ce genre de choses.
Mais j'ai lu sur Facebook qu'elle avait des problèmes de logement.
Ah,
d'accord.
Bon, 100 000 euros, ça va en solutionner quelques-uns.
Bravo en tout cas à Olga Neuwirth, l'une des très grandes compositrices vivantes.
Laurent, qui s'invite ce soir dans votre Pourquoi composez-vous?
Une jeune compositrice lituanienne qui réside à Paris. Une compositrice très prometteuse. Émilie Rodolphe, qu'est-ce que vous pensez de la jeune génération de compositeurs?
Plutôt formidable.
Moi, je la sens bien aussi. Je trouve qu'il se passe vraiment quelque chose. On a invité Samira Marouche dans le Carrefour de la Création. On parle beaucoup de Florent Caron d'Arras, mais aussi de Justina Repesch-Caeté. Ils ont tous en commun d'avoir étudié avec Jean-Luc Hervé et ils reprennent l'héritage spectral. J'ai vraiment une génération qui est en train de naître. Émilie Rodolphe, ça vous dit d'inventer un terme pour désigner cette génération 90? C'est notre travail de journaliste. Je sais que les journalistes ciné, ce sont eux qui ont inventé le terme Nouvelle Vague. Alors j'ai 3 ou 4 propositions à vous faire. Elles sont toutes pourries, mais on lance le mouvement. Si nos auditeurs ou même les compositeurs ont une idée. Donc pour désigner ce groupe qui recherche des nouveaux timbres, je propose les nouveaux sonores, Les Inouïs, il y a le TGV là, c'est fini.
Ah oui, mais il n'y a pas un festival en plus déjà.
Ah, les Jeunes Inouïs, les Arpenteurs. Ou alors, on pourrait dire les postes spectraux, mais c'est pas très joli,
non,
ça.
Non, c'est pas très sexy.
Mais disons simplement, Génération 90.
C'est vrai que c'est le plus simple, mais il va y avoir la génération 2000 qui va arriver bientôt.
Oui, c'est ça, ça va pas non plus. Non, mais on va trouver, Laurent.
On va trouver. Oui. Donc, chaque semaine.
Raison, elles étaient pourries.
Oui. Ben, j'avais prévenu, hein. Parmi ce groupe, Justina Repeche-Kaïté est l'une des chefs de file. Elle est avec nous ce soir. Bonsoir, Justina Repeche-Kaïté.
Bonsoir.
Alors, j'ai une question pour vous. Pourquoi composez-vous?
La composition me permet de mener une vie créative et d'accéder à une sorte de méditation. Lorsque je compose, je me plonge dans un monde imaginaire avec mes propres règles. Je peux atteindre un état d'attention, d'une profonde concentration. Une fois terminée, la partition n'appartient plus au compositeur. Elle prend vie entre les mains des musiciens et elle s'épanouit dans l'esprit de l'auditeur. Je désire invoquer l'imagination de ceux qui écoutent, de les inviter à vivre le moment présent et à se tourner vers leur vie intérieure.
Merci beaucoup, Justine de Repeche-Kaïté.
Merci à vous.
Je voudrais terminer le journal en faisant un clin d'œil au carrefour de la création de Thomas Vergracht, consacré à Ted Hearn, qui suit à 22h. Je voudrais parler d'un autre compositeur américain, mais cette fois de la côte Est, car la jeune musique américaine, on le répétera jamais assez, est très riche et très variée. Il s'agit de Tristan Perich. Il réveille les très grandes heures électroniques de Philip Glass et Steve Reich des années 70. On va entendre un extrait de sa One Byte Symphony. C'est féminin ou masculin? Est-ce que vous me voyez venir? Comment on pourrait traduire ça en français?
Un rythme...
Une One Byte Symphony.
Oui.
Une symphonie à...
Un seul rythme.
Ah d'accord, j'ai cru que vous avez
vu. Vous avez vu? On vous a eu ou pas?
Oui, absolument. En tout cas, j'ai lu que Tristan Perich était à Bordeaux dernièrement, car il crée à la Biennale Métamusique de Cognac, le 30 mai prochain, une nouvelle œuvre pour vibraphone et haut-parleur. On en reparlera, car c'est un compositeur très stimulant. On se quitte avec un extrait de l'enthousiasmante One Byte Symphony de Tristan Perich. De One Byte Symphony de Tristan Perich.
Merci Laurent Villarem.
Merci Laurent Villarem. À la semaine prochaine. Bonne soirée. Vous le savez peut-être, Antoine Berland a une petite passion pour les orgues en ce moment, et notamment ceux de Toulouse ou celui de Toulouse. Toulouse, les orgues, hashtag 2, c'est les à-propos d'Antoine Berland.
Les à-propos.
Antoine Berland.
90 secondes de son lit.
Je crois que c'est bon là. Oui.
Les à-propos.
C'est bon pour tout le monde.
Antoine Berland.
Oui.
Merci à Antoine Berland pour ses à-propos.
Et merci à notre équipe ce soir, Claire Lagarde, Emmanuel Mortincan et Pauline Boisaubert.
À réécouter sur francemusique.fr.